Passons maintenant à l'action 5, recadrer. Je constate que l'entretien de recadrage est souvent redouté, à la fois par les managers et par les collaborateurs. Un entretien de recadrage signifie que le manager considère que son collaborateur a un fonctionnement inadapté, quelque chose qui ne va pas. Par exemple, il constate que ce dernier n'a pas fait ou a mal fait un travail qui lui incombe. Or, le manager n'a parfois pas les outils techniques nécessaires pour opérer un recadrage pertinent. De plus, il est souvent, je dirais, interpellé affectivement dans le dysfonctionnement de son collaborateur. Et ça peut, par exemple, le conduire à ressentir des émotions, parfois violentes, par exemple la colère. De son côté, le collaborateur est souvent tout aussi démuni et mal à l'aise. Et mon expérience m'a montré qu'en s'appuyant sur une démarche structurée et cohérente, une part conséquente des difficultés qui sont liées aux entretiens de recadrage était ainsi réglée. Et c'est cette démarche que je vais vous proposer. Donc voici les étapes de la conduite d'un entretien de recadrage. La première étape, vérifier et analyser avant de conclure. Votre premier objectif en tant que manager, avant de déclencher l'entretien de recadrage, c'est d'obtenir des informations afin de vérifier s'il y a bien un dysfonctionnement, d'une part, et d'autre part, quelle en est l'origine. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre à partie un collaborateur sans avoir fait cette vérification. Parce qu'il y a un risque que ce soit vous qui fassiez une méconnaissance, et qu'en fait, il n'y a pas le dysfonctionnement, ou que le dysfonctionnement n'est pas lié à ce collaborateur-là. Et là, vous avez trouvé l'un des meilleurs moyens de vous discréditer, parce que vous avez un comportement incohérent et inéquitable. Donc, vous pouvez passer à l'étape suivante à partir du moment où vous avez les éléments observables vous permettant d'avoir vérifié qu'il y a réellement un dysfonctionnement et que ce dysfonctionnement est causé par votre collaborateur. Étape 2, faire un diagnostic. Donc il s'agit de l'objectif premier de l'entretien de recadrage. Vous êtes en fait dans la situation d'un médecin qui constate l'apparition de boutons chez un client. La première chose qu'il doit faire, c'est un diagnostic. Et le traitement qu'il pourra envisager ultérieurement sera efficace dans la mesure où le diagnostic aura été pertinent, d'où l'importance du diagnostic. Et en la matière, votre première mission est de déterminer quelle est l'origine du dysfonctionnement de votre collaborateur. Et il s'agit d'identifier si votre collaborateur fait ce que l'on appelle une méconnaissance. Je définis une méconnaissance comme l'omission inconsciente d'une information utile à la résolution d'un problème. En fait, c'est une définition qui est issue des outils d'analyse transactionnelle. Cela veut dire que, sans même s'en rendre compte, la personne a omis un élément de la réalité. Alors, il y a trois niveaux de méconnaissance. Le premier niveau, c'est la méconnaissance de la réalité. La personne ne se rend pas compte de la situation. Par exemple, elle ne se rappelle plus qu'elle devait faire le travail que vous attendiez. Et quand vous lui dites où en êtes-vous du travail, elle vous dit « Mais de quel travail parlez-vous ? » Ou alors, elle fait une méconnaissance de la date, et pour elle, c'était à rendre vendredi, mais pas vendredi dernier, vendredi de la semaine prochaine. Donc là, elle fait une méconnaissance sur un des éléments de la réalité, qui est la date, où elle aurait dû avoir terminé ce travail. Le deuxième niveau de méconnaissance, c'est la méconnaissance du problème. Donc la personne se rend compte de la situation, mais elle considère que ce n'est pas un problème. Donc là, il y a une méconnaissance du problème. Par exemple, elle sait qu'elle est en retard, mais elle pense que c'est pas grave. Elle dit « Bon, c'est vrai, je suis un peu à la bourre, mais ma foi, j'aurai fini pour la fin de la semaine, donc il n'y a pas de problème. » Troisième niveau de méconnaissance, c'est la méconnaissance des options. Que la personne se rend compte de la réalité, elle a bien conscience qu'elle n'a pas fait le travail que vous lui aviez demandé dans le temps que vous lui aviez imparti. Elle considère que le fait de ne pas avoir fait ce travail est un réel problème, mais elle ne voit pas comment elle aurait pu faire autrement. Là, c'est la méconnaissance des options. Elle ne voit pas comment elle pourrait faire. Cette grille des trois niveaux de mes connaissances, je l'ai élaborée en me fondant sur un modèle théorique qui est issu du tableau des méconnaissances mis au point par Ken Mellor et Eric Sigmund, qui sont deux personnes qui ont travaillé à concevoir cet outil. Et cet outil est un des outils de base de l'analyse transactionnelle. Donc maintenant, nous pouvons voir comment concrètement identifier dans quel niveau de méconnaissance est votre collaborateur. Pour cela, il s'agit de le faire parler. Alors, il ne s'agit pas de le torturer, mais il s'agit de lui donner l'occasion de s'exprimer. Et c'est au travers de ce qu'il va dire que vous allez pouvoir identifier la méconnaissance. Prenons un exemple. Votre adjointe vous rend un rapport il y a maintenant 2 jours. Vous n'avez pas ce rapport. Donc, je vous rappelle, première chose, vérifiez qu'effectivement ce rapport n'est pas sur votre bureau et que ce n'est pas vous qui avez posé un document par-dessus. Une fois que vous avez vraiment eu la vérification que vous n'avez pas ce rapport, c'est demander à votre adjoint où il en est concernant la rédaction du rapport. Et là, vous écoutez ce qu'il vous répond. Par exemple, s'il vous dit « Quel rapport ?» Ça ne me dit rien. Il s'agit de méconnaissance de la nature du travail qu'il devait effectuer. C'est une méconnaissance de la réalité, méconnaissance de niveau 1. Je reprends l'exemple que j'ai donné précédemment. S'il vous dit « Mais c'était pas pour vendredi dernier, mais pour vendredi prochain », c'est une méconnaissance de la date qui est un élément de réalité. On est toujours dans la méconnaissance niveau 1. Par contre, s'il vous dit « Oui, effectivement, j'aurais dû vous rendre ce rapport vendredi dernier, mais bon, je pense que je l'aurai fini demain. Hein, vous savez ce que c'est, en ce moment, on a plein d'urgences. » Ce qui sous-entend, c'est que votre rapport, c'était pas une urgence. Il est probable qu'il fasse une méconnaissance du problème. Et puis, dernière option possible, c'est « Bon, c'est vrai, je devais vous rendre ce rapport vendredi, je ne l'ai pas fait, j'ai conscience que c'est un réel problème, hein, mais je suis vraiment débordé et je ne sais pas comment faire, j'y arrive plus. » Donc là, on est dans la méconnaissance des options. Une fois que vous avez identifié quel niveau de méconnaissance concerne votre collaborateur, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est le traitement de la méconnaissance. Vous allez le constater, le traitement est différent en fonction du niveau. D'où l'importance de bien identifier d'abord quel est le niveau de méconnaissance de votre collaborateur. Reprenons le cas de la méconnaissance de niveau 1, donc qui est la méconnaissance de la réalité. Le traitement que je suggère, c'est aider la personne à reprendre contact avec la réalité. Et la meilleure façon que j'ai trouvée pour le faire, c'est de lui rappeler les faits. Donc, si on reprend l'exemple précédent, c'est rappeler à la personne quel rapport vous lui aviez demandé, quand est-ce que vous lui avez fait cette demande, voire même où, par exemple dans votre bureau, hein, à quelle occasion, et quelle était la nature précise de la demande. Voyons maintenant le traitement d'une méconnaissance de niveau 2, donc méconnaissance du problème. Il s'agit d'aider la personne à prendre conscience du problème et de son importance. Alors, une bonne façon que j'ai trouvée pour aider la personne à se rendre compte, c'est de la pousser à répondre à la question « Pour qui est-ce un problème ?» Ça lui permet de se rendre compte que quand il y a un problème, les conséquences n'en sont jamais isolées, que la personne fait partie d'un système et qu'il y a donc un certain nombre d'éléments du système qui vont être pénalisés, affectés par le dysfonctionnement dont elle est la cause. Si je prends un exemple, le fait de ne pas avoir rendu le rapport au moment où vous l'attendiez peut par exemple entraîner un problème pour vous parce que vous aviez besoin des informations de ce rapport pour préparer une réunion. Ça peut entraîner un problème pour les participants à la réunion parce que vous n'avez pas été en mesure de leur donner les informations prévues lors de cette réunion. Qui peut entraîner un problème pour le service qui a été perçu comme peu performant par les autres chefs de service et par la direction générale. Et puis ça peut entraîner aussi un problème pour les collègues de travail qui n'apprécieront certainement pas que le service soit discrédité. Et enfin, c'est un problème pour la personne elle-même qui a été cause du dysfonctionnement parce que vous allez devoir la recadrer et éventuellement la sanctionner parce que vous ne pouvez pas laisser passer. En fait, il s'agit d'expliquer à la personne la réalité des conséquences de son dysfonctionnement sur toutes les personnes concernées. Et c'est une excellente façon de l'aider à prendre conscience d'interactions qu'elle pouvait ne pas soupçonner. Voyons maintenant le traitement d'une méconnaissance de niveau 3. Donc là, la personne a conscience de la réalité et elle a conscience du problème, mais elle ne sait pas comment faire. Et c'est là qu'il est très important, une fois que la personne a conscience ou a pris conscience du problème, de ne pas vous contenter de lui dire « bon, bah, maintenant que vous avez compris et que vous savez exactement ce que vous avez amélioré ou à rectifier, je compte sur vous pour le faire ». Parce que là, vous êtes dans un style de management qui refait surface et qu'on voit régulièrement, qui s'appelle le yaka. Ce que vous avez à faire par contre, c'est d'accompagner la personne à rechercher quelles sont les options possibles qu'elle peut mettre en œuvre, qu'elle doit mettre en œuvre pour deux choses. La première chose, c'est pour réparer, et la deuxième chose, c'est pour limiter les risques de récidiver, c'est-à-dire de commettre à nouveau le dysfonctionnement. Et je vous suggère de rechercher les options pour chacun de ces deux objectifs. Alors si on commence par le premier, concernant l'objectif de réparation. Une chose que je veux dire d'abord, c'est que le fait de demander à un collaborateur de réparer les conséquences négatives d'un dysfonctionnement n'est pas une sanction. Nous pouvons tous faire une erreur. La règle, c'est que lorsque j'ai fait une erreur, je dois la réparer. Ce n'est pas une mesure vexatoire, c'est la réalité d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit. C'est la règle du jeu. Et là, je voudrais attirer votre attention sur un piège que j'ai vu fréquemment. C'est le manager qui répare lui-même l'erreur de son collaborateur. Et ça peut être tentant pour le manager parce que ça ira plus vite. Et puis comme il répare lui-même, il est sûr que la réparation sera telle qu'il la souhaite. Il n'y a qu'un problème, mais qui est majeur, c'est que du coup, vous enlevez toute valeur pédagogique au recadrage. Et la personne sera réellement motivée à limiter les risques de récidive quand elle-même elle aura supporté la pénibilité, j'allais dire, de la réparation. Mais tant qu'elle ne s'est pas elle-même investie et qu'elle n'a pas transpiré, voire un peu stressé pour réparer son erreur, je ne vois pas pour quelle raison réellement elle s'engagerait dans une démarche de changement qui limiterait les risques que cette erreur se reproduisent. C'est vrai pour les enfants, c'est tout aussi vrai pour les adultes. Concernant l'objectif de ne pas récidiver, il s'agit donc, après avoir fait l'analyse du dysfonctionnement et de ses causes, de chercher les options d'action permettant de limiter le risque que le dysfonctionnement apparaisse à nouveau, et s'il apparaissait, d'en limiter les effets négatifs, et d'en réajuster, j'allais dire, le traitement. Il y a un écueil à éviter en la matière. C'est le piège qui consiste pour le leader à rechercher lui-même les solutions. Si vous, en tant que leader, vous faites cette démarche, vous prenez deux risques. Le premier risque, c'est la solution que vous retenez peut ne pas convenir à votre collaborateur. Mais comme celui-ci, il est dans le cadre d'un entretien de recadrage, il risque de ne pas oser vous le dire. Lui, il est content que ça se termine rapidement, cet entretien de recadrage. Dans ce cas, il y a une forte probabilité pour que le dysfonctionnement ne soit pas réellement réglé. Il y a un deuxième risque, c'est qu'en trouvant la solution, du coup, le problème n'est plus celui de votre collaborateur, mais ça devient votre problème. C'est une façon de déposséder votre collaborateur de la responsabilité qui est la sienne. Et sa responsabilité, elle est d'être actif dans la recherche et dans la mise en œuvre des options pour réparer et pour ne pas recommencer. Et lorsque le leader a une réaction immédiate et systématique de chercher des solutions et de les faire appliquer, il risque de conduire ses collaborateurs, lorsqu'ils auront un problème, à la réaction immédiate et systématique suivante: ne pas chercher la solution, chercher le chef. Et ce même chef m'expliquera alors que ses collaborateurs manquent totalement d'autonomie et qu'il doit sans arrêt intervenir. Et que c'est vraiment extrêmement pesant. Je vous ai dit ce que je vous suggère de ne pas faire. Maintenant, comment procéder ? Eh bien, je vous suggère de demander à votre collaborateur de réfléchir aux options qu'il peut vous proposer, à la fois pour réparer, d'une part, et d'autre part, pour ne pas récidiver. Laissez-lui le temps nécessaire, qui peut être une heure, une demi-journée, trois jours, et réunissez-vous à nouveau. Et là, l'idée, c'est de lui demander quelles sont les options qu'il peut maintenant vous proposer. Et la suite est le même fonctionnement que ce que nous avons vu dans le cadre de l'entretien d'évaluation. C'est-à-dire qu'il y a deux options. Soit votre collaborateur vous présente des options qui vous paraissent globalement valides et à ce moment-là, vous négociez les éventuels ajustements avec lui. Soit votre collaborateur vous présente des options totalement invalides ou pas d'options du tout. Et là, vous avez touché sa limite de compétence et vous avez à changer de style de management et à passer dans un style qui est explicatif. Et les styles explicatifs, c'est d'abord un style directif. C'est-à-dire que vous avez à lui expliquer comment il va devoir faire, à le former et à être directif avec lui. Puis vous pouvez passer à l'étape 4 qui est passer un contrat et qui est l'étape qu'on retrouve aussi dans l'entretien d'évaluation. Donc à ce stade, votre collaborateur et vous-même avez retenu certaines options d'action. Il s'agit maintenant de passer ensemble ce contrat où votre collaborateur s'engage à mettre en œuvre les options retenues selon les modalités que vous avez définies ensemble. Et je vous rappelle qu'il doit aussi, bien évidemment, s'engager à respecter la règle de réactivité. Et je vous rappelle enfin que vous devez informer votre collaborateur que s'il ne respecte pas son engagement, vous le sanctionnerez.